La lecture est encore la lecture d'un passage d'une épître, une épître de Paul. J'ai déjà fait référence à l'un des versets du passage. Dans l'épître aux Colossiens, je propose de lire à partir du verset 24 du premier chapitre. Colossiens 1, 24 jusqu'à 2, 19. Je lis tous ces passages dans la traduction de la Bible à la colombe, parce que j'espère vous encourager ainsi à tous l'acquérir. Il va y avoir d'ailleurs une édition bon marché qui remplacera complètement l'édition second, l'ancienne second, assez prochainement. Et c'est la Bible de travail, disons, celle qui vous permet de retrouver tous les méandres et toutes les subtilités de l'original de la manière la plus exacte. Elle ne se lit pas aussi facilement que d'autres versions, mais vous êtes sûr alors d'avoir un compte rendu particulièrement fidèle, évidemment. On peut toujours contester tel ou tel point de traduction, mais c'est, je crois, celle qu'on doit recommander comme Bible de travail aux chrétiens. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée, notre ville d'Asie mineure, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps, soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Dieu seul parle bien de Dieu. Cette réflexion de Pascal portait dans son contexte immédiat, sur le style des livres bibliques, mais elle a, je crois, une portée très étendue. Si Dieu n'avait pas parlé, nous ne pourrions rien dire de lui, en tout cas rien dire qui soit valide de lui. S'il s'était enfermé dans le silence, nous n'aurions même pas le droit de parler de son mystère, finalement, nous ne saurions rien. Et notre doctrine, notre parole de Dieu, sur Dieu, ne peut être qu'une reprise, qu'une confession de sa parole. Le mot confession vient de la racine qui évoque l'acte de parler, logoumai, et puis d'un préfixe, homo, dont vous savez suffisamment le sens, qui veut dire de même. Confesser, c'est dire de même que celui qui le premier a parlé. Notre doctrine de Dieu ne peut être qu'une confession, une façon de dire comme lui. Et cela implique toujours une interprétation. Car si nous redisons dans nos mots, même si ce sont les mêmes que ceux de la Bible, ils deviennent nos mots, ils s'intègrent dans notre ensemble, vocabulaire personnel, univers de langage, comme on dit. Donc ce sont nos mots. Et cela veut dire que nous avons, de quelque manière, traduit dans notre langage ce qui était dit d'abord dans le langage des messagers de Dieu. Donc qu'il y a interprétation. En gros, tous ceux qui appartiennent à la chrétienté, alors j'emploie là un mot vague à dessein, le mot le moins compromettant possible, disons, le plus neutre, tous ceux qui portent l'étiquette à bon droit ou non, de chrétiens, en tiennent compte, plus ou moins sérieusement. Tous, pratiquement, ils recourent à l'écriture pour construire leur doctrine. Ils y recourent de façon diverse, et nous allons y venir, mais je crois qu'il nous faut reconnaître que même des hommes qui s'opposeraient violemment aux thèses que je vais défendre devant vous, que j'ai défendu cet après-midi, que je défendrai demain, même des hommes qui se situent en terre de chrétienté, aux antipodes de notre doctrine évangélique, font quand même encore référence à l'Écriture. S'ils restent dans le circuit de la chrétienté, ils s'intéressent aux textes bibliques, ils le citent parfois, leurs écoles comprennent des chaires d'Ancien et de Nouveau Testament. Donc il y a quand même reconnaissance de cette nécessité inéluctable pour nous de nous référer à la parole de Dieu si nous voulons dire quelque chose de Dieu. Alors pourquoi les oppositions, si tous tiennent, au moins grosso modo, compte de cette priorité de la parole de Dieu ? Les oppositions, comme je l'ai déjà suggéré cet après-midi dans la réponse aux questions, tiennent pour une part à la faillibilité humaine et ce qu'on pourrait appeler l'imparfaite sanctification de l'intelligence des croyants. La sanctification, ça commence, mais ça ne s'achève pas sur la terre. La sanctification, elle affecte aussi notre intelligence, car c'est le cœur qui pense, comme nous l'avons dit. Or, la sanctification concerne précisément le cœur. Vous ne pouvez pas séparer à l'intérieur de l'individu une faculté qui serait l'intelligence du reste de la personnalité. La sanctification, qui concerne tout l'homme, concerne aussi sa capacité de raisonner droit, son intelligence, des choses qui lui sont dites. Et si nous restons marqués par les effets de quelques péchés sur la terre, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons nous-mêmes, dit l'apôtre Jean très clairement. Si nous restons donc marqués par le péché tant que nous vivons sur la terre, cela veut dire que notre intelligence aussi boite de quelque façon et que nous ne sommes pas capables d'interpréter d'une manière parfaitement correcte ce qui nous est dit dans l'Écriture. Alors, à cause de cela, évidemment, surgissent des oppositions. mais les principales oppositions, celles qui portent carrément sur l'essentiel du message biblique, ne viennent pas simplement de cette faillibilité à laquelle nous participons tous, mais viennent des principes de construction de la doctrine. Quand je dis principe, je veux dire méthode, critère à la fois. Je n'emploie pas les mots dans un sens très très restreint. Il s'agit de la manière dont on bâtit la théologie que l'on va professer, ou la doctrine, si vous préférez un mot peut-être moins ronflant. Et puisque la théologie comporte toujours une référence à l'écriture, tout spécialement, c'est la manière dont l'écriture est traitée et interprétée qui va servir de déterminant majeur pour la construction de la doctrine. Jésus lui-même, dans une discussion avec les pharisiens, au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, ou dans les passages parallèles, nous montre qu'il ne suffit pas de se référer à l'écriture, de l'avoir en main et de la citer, pour reconnaître réellement son autorité. Jésus, là, parle du traitement que donnent les pharisiens, du commandement « Honore ton père et ta mère ». Et Jésus précise au verset 3 « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Et ce qui est traduit « transgresser » dans la Bible à la Colombe, après avoir fait l'éloge de la Bible à la Colombe, je suis obligé ici de d'injecter une petite note corrective. C'est pas tout à fait transgresser ici, c'est littéralement privé d'autorité. Vous me direz, ça revient presque au même, c'est pour ça que la Bible à la Colombe ne peut pas être trop censurée. Mais c'est un verbe qui n'est pas employé souvent dans le Nouveau Testament, qui est le verbe « akuroo », qui est bâti avec le préfixe « a », préfixe privatif que vous connaissez bien, sur la racine du nom « seigneur », qui est « kurios ». Le nom « seigneur », c'est « kurios ». Vous avez là le verbe « kuroo », avec un privatif. Au fond, vous déseigneurisez l'écriture au profit de votre tradition ou, là encore, peut-être un peu plus littéralement, vous déseigneurisez la parole de Dieu à cause de votre tradition. Donc, il ne suffit pas que quelqu'un se réclame de la Bible, comme le diable lui-même l'a fait lorsqu'il a tenté Jésus, pour qu'on doive considérer que son interprétation est juste et que sa doctrine est saine. Tout va dépendre précisément de la manière dont la Bible est traitée, du mode de construction. Je distingue quatre voies principales quant à la construction de la doctrine. Bien sûr, toute typologie oblige à schématiser. On pourrait toujours ergoter, dire il y a des diversités que cette présentation obscurcit, fait disparaître. Mais je crois que cette division en quatre grande façon de traiter la Bible et de bâtir la doctrine chrétienne, ou dite chrétienne, est quand même la plus éclairante. La première voie, c'est la voie illuministe. On l'appelle aussi parfois la voie enthousiaste, en donnant au mot alors un sens qui n'est pas celui du langage de tous les jours. C'est un type marginal de construction de la doctrine, mais toujours renaissant. Il semble que dès le 1er siècle, on en ait eu des exemples, peut-être même dans l'église de Corinthe, car dans la discussion du chapitre 14 de sa première épître aux Corinthiens, Paul est obligé de dire que si quelqu'un se prétend inspiré, qu'il reconnaisse que ce que j'écris est le commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, il est ignoré ou bien qu'on l'ignore. Et là, il y a deux textes légèrement différents dans les manuscrits, mais ça revient au même. Il est ignoré de Dieu, il n'est pas approuvé de Dieu, ou bien qu'on l'ignore, n'en tenez pas compte. Il semble qu'il y ait eu, dans l'assemblée de Corinthe, des gens qui pensaient pouvoir mettre leur illumination privée, la révélation qu'ils croyaient recevoir, au-dessus de la parole de l'apôtre. Et Paul donc avertit contre la tentation de suivre pareille personne. À la fin du premier siècle, c'est la date probable, dans un document qui s'appelle la Didache, il est question de prophètes qui se promenaient de ci, de là, et il semble bien qu'ils aient été déjà des défenseurs d'un type illuministe, de construction doctrinale. Il y a eu une grande crise dans l'Église, dans la deuxième moitié du second siècle, un mouvement très puissant, conduit par un certain Montanus, c'est ce qu'on appelle donc le montanisme, qui a été marqué par la prétention de ce leader, avec deux prophétesses qui lui étaient associées, de donner la clé du sens véritable des Écritures. Il se prétendait le consolateur annoncé par Jésus dans l'évangile de Jean, lui, Montanus. C'est la prétention de donner une clé pour bien comprendre l'Écriture et pour bien construire la doctrine. Et puis alors plus tard, vous avez d'autres exemples, presque à chaque siècle vous en retrouvez. Au Moyen-Âge, on ne sait pas très bien, faute de sources historiques, mais il y en a eu. Il y en a eu à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle. Il y en a eu encore pratiquement dans toutes les époques. Et de nos jours, il y a floraison de mouvements de type illuministe, ce qu'on appelle très souvent les sectes. Qu'est-ce qui fait l'illuminisme ? Eh bien, c'est, je pense, le principe suivant. On construit la doctrine à l'aide de la Bible et d'une illumination ou révélation privée qui sert à déterminer le sens de la Bible. Alors, on l'impute au Saint-Esprit, cette révélation privée. Mais la construction se fait à l'aide de la Bible. La plupart de ces mouvements gardent un lien avec la Bible. Vous prenez les témoins de Jéhovah ou les mormons, ils ont la Bible entre les mains. Seulement, ils ajoutent une révélation privée, une illumination. Or, très souvent, c'est la révélation reçue par le fondateur, par le chef du mouvement, Montanus, ou bien Joseph Smith pour les mormons, etc. Moon. Parfois, il y a quelques mouvements de type illuministe qui ont plutôt choisi cette voie. Il s'agit de la révélation que chaque individu peut recevoir. Le mouvement des Quakers, à l'origine, avait cette tendance. Ce n'est pas tant la révélation du chef, George Fox, qui n'a pas voulu établir de hiérarchie, mais plutôt la voix intérieure que chaque chrétien peut entendre et qui donc doit lui servir à construire la doctrine qu'il conservera avec la Bible. Alors cette voix, il faut reconnaître qu'elle est séduisante, et pas seulement à cause de la contagion d'une ambiance chaude et effervescente dans les mouvements qui généralement adoptent le type illuministe, ni seulement à cause du magnétisme des personnalités extraordinaires qui sont généralement à la tête de ces mouvements. Il est indubitable qu'il y a des hommes qui ont un rayonnement extraordinaire, qui réussissent à marquer ceux qui les entourent, à résoudre un certain nombre de leurs problèmes. Il est très bon de le savoir, justement, pour échapper à la fascination de celui qui se lève près de vous et que vous pouvez imaginer comme unique dans cette espèce de puissance-là. Il y en a eu des dizaines et des dizaines dans le cours de l'histoire qui ont déclaré les choses les plus contraires les unes aux autres. Donc, le savoir vous libère de l'attraction trop immédiate d'un homme d'une très grande puissance de ce type. Non, mais en dehors de ces éléments de séduction-là, il faut reconnaître que la voix illuministe met en valeur la nécessité du Saint-Esprit pour bien comprendre l'Écriture. Nous avons vu cet après-midi qu'il faut que la vie soit associée à la réception de la doctrine pour que la doctrine soit vraiment comprise. Parce que la vie, elle vient du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est nécessaire. Il faut que seul l'homme spirituel pourra saisir les choses de Dieu. Cela, l'illuminisme l'a bien dit. Et on peut aussi souligner, à propos de ces chefs spécialement doués, qu'il y a des dons du Saint-Esprit faits à certains pour guider leurs frères, et la voix illuministe permet de se rappeler cela. On peut aussi souligner que cette voix postule un Dieu vivant qui parle aujourd'hui. Et c'est un de ses avantages. Nous devons nous rappeler, à coup sûr, que le Dieu qui nous parle dans la Bible n'est pas seulement le Dieu qui a parlé, mais le Dieu qui parle aujourd'hui. Mais une fois ces avantages reconnus, j'essaie d'être équitable, n'est-ce pas ? Je crois que nous devons observer que l'illuminisme donne en pratique un statut subordonné à l'autorité de la Bible. En fait, la Bible est mise sous une autorité qui, bien qu'on dise que tout vient du Saint-Esprit, qui en fait supplante la sienne et détermine concrètement ce que l'on va laisser dire à la Bible. La parole actuelle de l'Esprit, qui montre comment il faut comprendre la Bible, l'emporte évidemment sur la parole ancienne qui se trouve dans les textes. Et du coup, il faut bien dire que la parole de la Bible ne joue plus effectivement le rôle du souverain. Et cela, c'est une chose qui est en conflit avec la perspective que la Bible elle-même nous dessine. Ce que la Bible nous montre, c'est qu'elle est un fondement posé une fois pour toutes. L'Église se bâtit, d'après la fin du second chapitre aux Éphésiens, sur le fondement des apôtres et prophètes. Un fondement, on ne pose pas 36 fois pour une maison. L'Église ajoute étage à étage, génération après génération, mais il y a un seul fondement qui est posé une fois pour toutes. C'est lui qui détermine la construction. Il y a la formule qui est utilisée par l'épître de Jude, spécialement intéressante, qui dit que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette expression « une fois pour toutes », Jude verset 3, qui est caractéristique de l'œuvre du salut dans l'épître aux Hébreux, le sacrifice de Jésus-Christ, opère une rédemption une fois pour toutes, est aussi appliquée dans l'épître de Jude à la transmission de la foi. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cela me semble s'opposer à l'idée que l'actualité de la parole de Dieu qui parle aujourd'hui signifierait que des paroles aujourd'hui s'ajoutent aux paroles prononcées autrefois et vont nous permettre alors de déterminer l'interprétation juste des paroles d'autrefois. La foi a été transmise comme c'est un fait d'histoire sur lequel on ne revient pas et qui continue de régir l'Église tout au long de son existence. C'est encore la perspective que l'Épître aux Hébreux nous présente avec, je crois, du même coup, la raison théologique profonde de ce qu'on peut appeler l'achèvement de la révélation avec le Nouveau Testament. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, etc. C'est le début de l'épître aux Hébreux qui souligne que la révélation s'est étalée sur des siècles, qu'elle s'est déroulée dans le temps. Dieu a parlé à nos pères de diverses manières, à plusieurs reprises, mais qu'elle culmine et s'achève dans le Fils. On ne dépasse pas la révélation qui est venue par le Fils. Et ce Fils qui s'est bien sûr associé à ses apôtres, qu'il a formé pour fonder avec lui, Jésus-Christ, à la pierre angulaire de ce fondement des apôtres et prophètes. Et pourquoi cela? Je pense que c'est parce que la communication de la parole de Dieu est liée à l'événement même du salut. Il a fait la purification des péchés. C'est pour cela qu'il est venu. Plus encore que pour nous parler. Dieu pouvait nous parler par des prophètes, ça suffisait en un sens. Mais pour nous purifier de nos péchés, il fallait que le Fils de Dieu vienne parmi nous et porte le péché du monde. Et pour que la parole est en quelque sorte associée à cette venue pour le salut. Le salut est une fois pour toutes, donc la parole a été transmise sous sa forme définitive avec la venue rédemptrice du Fils de Dieu. Alors tout cela, vous vous en rendez compte, s'estompe ou tend à disparaître dans l'illuminisme avec l'addition de révélations. Et on s'en rend compte d'ailleurs souvent dans l'analyse de la théorie du salut que l'on trouve dans ces doctrines illuministes. On se rend compte que pratiquement toujours, l'une fois pour toutes de la rédemption est comme gommée. Il n'en reste plus grand-chose. Et ce que les illuministes nous proposent, c'est une nouvelle voie des œuvres. Chez les témoins de Jéhovah, par exemple, c'est assez clair, pour nous sauver, ou l'initiation à une forme de piété, et ce n'est plus la proclamation du salut comme accompli une fois pour toutes. L'illumination, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de l'illumination du Saint-Esprit, ne signifie pas l'addition d'une nouvelle parole, ne signifie pas une révélation qui s'ajoute à la révélation déjà donnée pour nous permettre de l'interpréter. L'illumination, c'est la guérison de notre aveuglement. C'est de notre côté qu'elle opère. Dieu enlève le voile qui repose sur le cœur, l'organe de la compréhension de ceux qui n'ont pas justement cette œuvre du Saint-Esprit illuminatrice pour leur permettre de comprendre l'Écriture. Mais il ne s'agit pas pour Dieu de donner comme un petit morceau de doctrine pour s'ajouter à la doctrine biblique ou une autre révélation pour s'ajouter à cette révélation. Le type illuministe échoue de manière évidente sur le problème décisif de l'épreuve des esprits. On dit, c'est le Saint-Esprit qui me donne cette révélation, etc. Mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. C'est l'ordre que donne un passage très important de la première épître de Jean au chapitre 4. Et je vais le lire encore à cause de son importance. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Nous, et là, sans doute le « nous » est apostolique. Jean parle avec l'autorité des apôtres, mandatés par le Christ. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et c'est très clair ici. Il ne s'agit pas de faire crédit à n'importe qui déclare avec beaucoup d'éloquence ou un regard qui vous transperce, des gens qui ont ça, le Saint-Esprit m'a dit, ne vous fiez pas à tout esprit, éprouvez les esprits. Les illuministes me semblent désastreusement naïfs. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être les jouets de leur inconscient, bien souvent, que la voix intérieure qu'ils croient avoir perçue peut être produite par des mécanismes cachés au fond d'eux-mêmes. Et pire, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être le jouet d'autres esprits, de ces esprits d'Antichrist qui leur insinuent des doctrines de démons, comme le chapitre lu dans la première à Timothée en a formulé la possibilité. Je suis sûr que devant beaucoup d'illuminisme, Satan s'amuse. Lui qui a su se travestir, qui a su se déguiser en ange de lumière pour abuser de très braves gens au départ. Alors, il y a le problème de l'épreuve des esprits. Quel est le critère ? Bien, le critère est donné dans ce passage de la première épître de Jean très très clairement. C'est la confession doctrinale. Confesser Jésus-Christ venu en chair, non pas seulement quelques mots, mais que avec le sens que cela doit impliquer. l'accord avec la parole apostolique. Celui qui nous écoute est de Dieu. Celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. Pour que ce critère puisse fonctionner, il faut qu'il soit indépendant. Si bien sûr le témoignage apostolique est soumis pour son interprétation à une révélation privée, alors on ne peut pas dire que cette révélation privée sera éprouvée par la doctrine apostolique. Vous ne pouvez pas faire jouer un double rôle à cette révélation privée qui deviendrait à ce moment-là jugée partie à la fois. Vous ne pouvez pas dire « elle est nécessaire pour que je comprenne l'Écriture » et puis ensuite « je vais l'éprouver par l'Écriture ». Si vous l'avez utilisée pour interpréter l'Écriture, elle a déjà désorienté votre esprit en admettant qu'elle ne soit pas de Dieu. Donc la seule manière de faire vraiment jouer ce critère qui est ici énoncé par la première de Jean, c'est d'avoir un test qui soit indépendant de toute révélation privée. C'est l'Écriture elle-même, comme instance décisive et souveraine, qui doit nous permettre de débusquer quels sont les esprits trompeurs. Et je pense qu'on peut dire, à cause des perspectives bibliques déjà soulignées, que tout esprit qui prétend ajouter une révélation, alors est trompeur. Puisque précisément, la Bible elle-même nous annonce que le temps de la révélation de la foi est terminé. Parce que le mouvement de la révélation aboutit à Jésus-Christ et est associé à l'événement, une fois pour toutes, de notre rédemption. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de révélation du tout, mais des révélations qui concernent la vocation d'un tel ou d'un tel. Des révélations qui ne sont pas doctrinales. Cela peut arriver si elles sont en accord avec la Bible, dans ce qu'elles disent. Alors elles peuvent fort bien être considérées comme des révélations données par le Saint-Esprit. Mais quant à la doctrine, quant à la foi, elle a été transmise une fois pour toutes. Cela est clair. Et il faut, pour construire donc la doctrine chrétienne, se renoncer radicalement à construire avec une révélation de plus que l'on conjuguerait à l'Écriture sainte elle-même. Il faut prier, il faut demander l'assistance du Saint-Esprit pour bien comprendre la Bible, mais ça ne peut pas devenir un argument pour dire « Ah, voilà le sens de la Bible ». Le Saint-Esprit, nous devons le prier pour qu'il guérisse notre regard, pour qu'il nettoie nos lunettes. Mais ensuite, pour dire ce qui est, nous avons à utiliser les arguments, ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas dire « j'ai nettoyé mes lunettes », ce n'est pas un argument, pour établir la réalité de ce qui est dit dans la Bible. La deuxième voie, je l'appellerai la voie traditionnaliste, mais on pourrait dire aussi la voie institutionnaliste. C'est le type principal qui a prédominé le plus longtemps dans la chrétienté. La doctrine y est construite à l'aide de la Bible et d'une tradition que définit et garantit l'institution de l'Église. C'est pourquoi on peut dire qu'il est traditionnaliste ou institutionnaliste. En fait, une tradition, c'est peut-être très vague, très flou. Où est la tradition ? Il faut une institution bien localisée et déterminée pour dire quelle est la tradition qu'il faut retenir. Donc finalement, on revient à l'autorité d'une certaine institution. Ce type traditionnaliste ou institutionnaliste, on le voit s'élaborer dès le second siècle. Dès peut-être les lettres de saint Ignace d'Antioche, au début du second siècle, il y en a l'amorce. Parce qu'il y a de faux docteurs, justement, qui rôdent alentour, qu'il y a des illuministes. Je crois que la réaction contre l'illuminisme a beaucoup joué. Saint Ignace d'Antioche dit « C'est l'évêque qu'il faut écouter. Il est comme Dieu dans son église, dans sa paroisse, en quelque sorte. Il joue le rôle de Dieu, il faut se soumettre entièrement. Il ne cesse de donner ce message. Ce qui donne à l'institution un poids, une force qui semble bien, bien plus élevée que dans le Nouveau Testament lui-même. Enfin, j'anticipe sur la critique. Puis, souvent, à cause des nécessités de la lutte contre des sectes diverses, Nous le trouvons déjà se confirmant vers la fin du second siècle et puis se développant progressivement dans les siècles ultérieurs pour aboutir sous sa forme la plus épanouie dans le catholicisme romain. Les divers catholicismes participent de ce type traditionnaliste ou institutionnaliste, le catholicisme oriental, dit orthodoxie, ou le catholicisme anglican, par exemple. Mais les traits sont moins accusés, la systématisation est moins poussée dans le sens de ce type. La tradition est-elle une deuxième source pour la construction de la doctrine chez les catholiques romains tout spécialement, puisque c'est surtout à eux que nous avons affaire en France, de toute façon, et c'est le type le plus précis et le plus détaillé. Très longtemps, on l'a affirmé, après le Concile de Trente, c'était une présentation ordinaire dans le catéchisme de la théorie de la tradition. On prétendait qu'il y avait la révélation écrite, d'une part, la Bible, et puis d'autre part, pour compléter, la tradition d'abord orale, recueillie par des témoins, puis ensuite mise par écrit plus tard aussi, chez les pères de l'Église, etc. Aujourd'hui, un nombre important de théologiens renonce à cette présentation, et je ne pense plus qu'on doive la dire encore caractéristique du catholicisme contemporain. Elle n'a pas tout à fait disparu, mais plusieurs disent la tradition, dont le magistère institutionnel déclare exactement les limites, est plutôt un commentaire interprétatif de l'Écriture. Il ne s'agit pas d'une deuxième source de révélation, mais d'un guide pour bien la comprendre. C'est ainsi que l'on comprend, que l'on utilise ce qui se trouve chez les pères de l'Église et puis chez les docteurs qui ont suivi. On s'appuie tout spécialement pour affirmer que c'est comme ça qu'il faut vraiment entendre l'association catholique de l'Écriture et de la tradition sur un élément de l'histoire du Concile de Trente. C'est pas le Concile de Trente, vous le savez, s'est réuni pour opérer comme une sorte de ressaisissement du catholicisme après la grande division de la Réforme au XVIe siècle. Un des schémas qui avait été proposé au père conciliaire à Trente disait que la révélation se trouve en partie dans l'Écriture et en partie dans la tradition. Et ce schéma a été repoussé en faveur d'un texte qui disait que la révélation se trouve dans l'Écriture et la tradition. Alors, on s'appuie aujourd'hui sur le fait que le schéma qui disait en partie, a été repoussé. Pour dire qu'il ne faut pas penser que la tradition est une deuxième source de révélation qui en contiendrait une partie. Il faut plutôt penser que la révélation est déjà tout entière dans l'Écriture, mais l'Écriture ne peut pas être séparée de la tradition. La tradition l'enveloppe en quelque sorte, lui donne une manifestation ultérieure, développée, qui est nécessaire à la bonne compréhension de l'Écriture. Alors cette tradition, je reviens, est définie par l'institution. C'est-à-dire que c'est le magistère de la hiérarchie, avec en tête, bien sûr, le souverain pontife, le pape, qui décide exactement de ce qui est la tradition autorisée. Et de manière particulièrement juridique, il a été défini que les conciles œcuméniques, c'est-à-dire universels, de toute l'Église, et le souverain pontife, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsqu'il parle en tant que souverain pontife, déclarant sur la foi et les mœurs, sont infaillibles et que leurs sentences sont irréformables. On peut être sûr qu'il n'y aura jamais rien à corriger dans ce qu'un concile a déclaré ou dans ce qu'un pape a enseigné parlant ex cathedra. Remarquons qu'il ne parle pas très souvent ex cathedra, d'après les opinions qui sont communément reçues aujourd'hui. C'est resté assez vague au Concile du Vatican numéro 1 qui a défini cette infaillibilité. Mais à l'heure actuelle, on accorde la note ex cathedra pratiquement à la seule promulgation du dogme de l'Assomption en 1950. Mais en dehors de cette promulgation de dogme, même pour les encycliques, on croirait que les encycliques, n'est-ce pas, quand on est naïf et extérieur, on se dit une encyclique, ben, il parle ex cathedra, il parle en tant que pasteur de tous les chrétiens, et vraiment de sa chair. Mais non, non, non. Aujourd'hui, on considère qu'il s'agit en quelque sorte d'un document de travail, d'une recommandation, etc., mais qui n'engage pas son infaillibilité dans les encycliques. C'est pourquoi vous avez un certain nombre de catholiques qui peuvent être, en particulier en matière de morale conjugale, de contraception, etc., tout à fait opposés aux enseignements pontificaux des dernières encycliques, et cependant se sentir la conscience libre. Parce que, alors qu'il y a un devoir de soumission extérieure, il n'y a pas le devoir de croire à l'infaillibilité de ces déclarations dans les encycliques. Reconnaissons là aussi les avantages, et pas seulement l'immense prestige d'une institution millénaire, dans le cas en tout cas du catholicisme romain, ce qui est une chose considérable. Pas seulement la richesse culturelle prodigieuse de la tradition du catholicisme. Je crois que nous pouvons saluer l'immense labeur de milliers d'intellectuels qui se sont voués toute leur vie à la tâche d'élucidation avec une grande sincérité et souvent une grande érudition, etc. Il n'y a pas seulement cela qui doit être reconnu. Mais nous pouvons aussi remarquer que cette voie traditionnaliste a combattu efficacement, ou combat efficacement, l'individualisme, qui est certainement un piège spirituellement, dans l'émiettement de certains autres mouvements. Et disons facilement, du protestantisme, il y a certainement quelque chose qui n'est pas très joli à regarder, et qui représente l'effet de motivation très reluisante. Il y a ce que je pense, moi, n'est-ce pas ? Et puisque les autres ne pensent pas comme moi, je fonde ma nouvelle église, etc. Il y a dans cette voie de la tradition un contrepoids par rapport à cet individualisme que finalement, quand on regarde de très haut, un petit peu ridicule par moment. Il faut noter que la dimension communautaire de l'humanité, de l'être humain, est ainsi mise en valeur, qu'il y a des promesses qui sont faites à l'Église, le séjour des morts ne pouvant pas prévaloir contre elle, dans le Nouveau Testament, qui sont sérieuses. Et on peut aussi remarquer, un des avantages de cette solution, c'est qu'elle montre quel est le sens de l'époque présente dans le plan de Dieu. Dieu ayant achevé la révélation, la foi ayant été transmise une fois pour toutes, ça, le catholicisme le reconnaît et affirme que le canon est clos. L'époque qui suit n'est pas vide et dépourvue de sens. Il est intéressant de la connaître, de s'y attacher, et on y voit une certaine action de Dieu dans cette tradition. Tout ça, c'est, me semble-t-il, un avantage de cette solution donc de type institutionnel et traditionnel. Mais cette solution, je ne vais pas la retenir cependant quant à moi, je vous l'avouerai, parce qu'elle donne aussi un statut subordonné à l'écriture, un statut à l'écriture qui est subordonné à une autre instance en pratique. Pas en théorie, mais en pratique. La chose se fait de façon plus ambiguë et plus habile que dans l'illuminisme, mais il me semble que c'est quand même une évidence pour quelqu'un qui n'est pas d'avance gagné à cette solution, qui n'a pas admis cette voie comme la voie. Il y a sur bien des points des doctrines, des dogmes qui sont professés de telle sorte que, d'après les déclarations, ils sont irréformables. Il y a un contraste qui est saisissant pour l'observateur qui ne se soumet pas d'emblée entre l'énoncé du magistère et puis les données de l'écriture elle-même. Je pense en particulier à ce qui touche la mariologie, sur laquelle les derniers dogmes ont porté. C'est là quelque chose d'assez éclatant. Pensez que saint Thomas d'Aquin lui-même luttait, en son siècle, contre l'idée de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire l'idée que Marie aurait été libre de tout péché dès l'instant de sa conception. L'Immaculée Conception, ce n'est pas la conception de Jésus, c'est celle de Marie. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, qui a pourtant été ensuite canonisé comme le docteur commun de l'Église, luttait au XIIIe siècle contre cette thèse, parce qu'il ne voyait absolument rien dans l'Écriture qui pouvait le soutenir, et qu'il voyait au contraire des principes scripturaires qui s'opposent à cela, avec l'accent sur le péché qui implique tous les hommes, sauf Jésus-Christ seul. Il me semble qu'un tel exemple nous montre que la Bible ne joue plus dans les discussions le rôle d'une instance déterminante. Il n'y a rien dans la Bible sur ce point. Et pourtant, à la suite de l'usage de certains arguments de convenance, comme elle est la mère de Jésus, qui est Dieu, il convenait qu'elle soit alors douée de toutes les perfections, c'est qu'elle n'ait pas été impliquée par le péché. À la suite d'arguments de convenance, qui ne sont pas dans la Bible elle-même, on a abouti à une telle conclusion. Je crois que manifestement, il y a là une subordination de l'Écriture à la tradition, une certaine tradition, et à celle que le magistère a décrétée juste. Adolphe Monod a une image un peu brutale pour dire ça. Ce n'est pas, bien que ce soit lui qui ait lancé le mot d'œcuménisme au sens moderne, Adolphe Monod utilisait cette image. Il dit, vous dites, j'ai la Bible et la tradition, donc j'ai plus que vous. Mais c'est comme si vous disiez, j'ai une maison et puis j'ai un canon qui tire dessus. C'est simple et c'est brutal, mais c'est quand même le problème. Le problème, c'est celui de l'incompatibilité d'orientation entre certaines des choses qui sont affirmées au nom de la tradition et ce que l'on peut trouver dans l'Écriture. Je me rappelle encore un autre exemple lors d'une controverse entre Bossuet et un pasteur du XVIIe siècle. Je crois que c'était Dumoulin, mais là, je ne suis plus tout à fait sûr. Ils étaient arrivés à cette conclusion à propos de la coupe de l'Eucharistie. Le pasteur était arrivé à faire dire à Bossuet, oui, au fond, pour vous, Jésus a dit « buvez-en tous », mais l'Église sait que lorsqu'il a dit « buvez-en tous », il voulait dire « n'en buvez pas tous ». Oui, oui. N'est-ce pas, comme vous le savez, dans la célébration catholique de l'Eucharistie, le calice ne circule pas parmi les fidèles. Seul le prêtre y participe. Alors, n'en buvez pas tous. Oui, oui. Là, vous avez le problème de cette adjonction d'une tradition interprétative, même si elle est seulement interprétative, mais considérée comme ayant le droit et même le devoir d'indiquer quel est le sens des textes de l'Écriture. Et nous devons nous rappeler alors de nouveau cette parole de Matthieu 15, lue tout à l'heure. Vous privez de son autorité la parole de Dieu à cause de votre tradition. Il est possible, par une tradition, en prétendant entièrement préserver l'autorité du texte, c'était le cas des pharisiens, il n'y a pas de doute, il est possible d'annuler effectivement, en pratique, la tradition du texte. Je crois que nous sommes ici de nouveau en présence d'un conflit avec les perspectives bibliques qui font de la parole de Dieu le fondement, ce qui donne son existence à l'Église et qui a le pouvoir de juger l'Église. La manière dont Paul présente son message aux Églises diverses me semble impliquer toujours que c'est ce message qui va juger les Églises et leur façon de penser, et non pas jamais les institutions de ces églises qui vont pouvoir déterminer le sens du texte de l'apôtre Paul. De nouveau, il y a une sorte d'atténuation de l'une fois pour toutes, comme on l'a souvent observé à propos de la croix et de sa répétition, qui n'était pas une répétition tout en étant une répétition, dans l'idée du sacrifice de la messe. Il y a une atténuation de cette simplicité de l'une fois pour toutes. En tout cas, c'est ce qui m'apparaît le cas. Et je ne suis pas le premier de très loin à avoir dit que nous sommes en présence d'une sorte d'illuminisme aussi. Plus subtil, beaucoup mieux gardé, mais un illuminisme institutionnel. Ce n'est pas quelque individu qui pense avoir reçu une révélation supplémentaire, mais c'est une institution qui, en ses représentants majeurs, pense avoir une vérité d'orientation quant au sens de la Bible, qui, malgré tout, s'ajoute à cette Bible. Et comme dans l'illuminisme de type grossier et ordinaire, le problème de l'épreuve des esprits reste posé. Comment discerner entre plusieurs esprits ? Comment discerner entre plusieurs institutions ? Ce n'est pas, pour les questions de vérité, la taille qui peut importer par-dessus tout. D'ailleurs, il y a eu tout un temps, par exemple, dans l'Antiquité, où c'est une hérésie, l'arianisme, qui était plus nombreuse dans l'Empire romain que le christianisme orthodoxe en matière de doctrine du Christ. Et l'empereur était du côté arien. Donc ce n'est pas une question de nombre, ça ne se décide pas à la majorité parlementaire, bien sûr, ces choses-là. Ce n'est pas la taille d'une institution. Est-ce que c'est la continuité historique extérieure, comme la doctrine de la succession apostolique le suppose généralement? Mais d'abord, pourquoi cette continuité extérieure serait-elle une garantie? Elle n'est pas annoncée dans le texte biblique lui-même, et on ne voit pas pourquoi le risque d'une déviation radicale serait exclu par le simple fait que ces hommes se sont trouvés au même lieu et se sont en quelque sorte touchés dans la chaîne d'histoire. On peut à la rigueur dire qu'il y a peut-être une présomption favorable en faveur d'une institution qui connaît une telle continuité extérieure, mais on ne peut vraiment pas en dire plus. Et sur tant de siècles, les possibilités de déviation sont trop sérieuses pour qu'on puisse s'appuyer sur le fait de cette continuité extérieure. Il faut éprouver les institutions. Et d'ailleurs, il y a plusieurs institutions qui prétendent avoir cette continuité. L'Église anglicane le prétend aussi. Donc, vous n'évitez pas le problème de la comparaison des prétentions, comme entre les chefs de secte, entre les institutions traditionnelles. Si vous considérez ce qui est dit alors dans l'Écriture, car il faut finalement revenir à l'Écriture comme instance déterminante qui éprouve les esprits, qui éprouve les institutions, bien, je crois que vous discernez, je ne vais pas le développer ça maintenant, bien sûr, je crois que vous discernez que la notion d'institution telle qu'elle s'est développée dans la tradition catholique ne correspond pas au sens de l'Église dans le Nouveau Testament. Il y a des charismes, des ministères dans l'Église, mais non pas une hiérarchie revêtue de tous ses pouvoirs. L'idée que les apôtres et des successeurs n'apparaît pas, des successeurs qui soient revêtus d'un pouvoir semblable à eux, semblable à celui qu'ils ont détenu, cela ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Et ce qui apparaît au contraire, c'est la notion de l'Église comme d'une réalité spirituelle distincte d'une grande structure visible. Dieu connaît ceux qui sont siens et l'Église est la communion de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit par une foi personnelle en Jésus-Christ. Ce qui nous éloigne de la grande vision historique où tous ceux qui ont fait partie du corps de la chrétienté sous conduit dans son côté religieux par cette institution étaient considérés comme chrétiens et appartenant à l'Église. Nous sommes, je crois, assez loin là du Nouveau Testament. Alors je crois qu'on peut dire que le piège de la subjectivité, qui est si évident dans l'illuminisme individuel, n'est pas évité là non plus, seulement il n'est pas apparent. Parce que chaque individu s'en remet à la grande institution. Mais ça ne fait qu'une collection d'individualités. Ultimement, il s'agit toujours d'hommes, et il faut que l'Écriture soit reine sur l'Église. Troisième voie, la voie critique, qu'on pourrait appeler libéral, avec une petite version néo-orthodoxe, ou moderniste. C'est un type qui, dans son développement, est lié à l'émergence de l'humanisme, donc qui est moderne, d'ailleurs comme le mot de moderniste le suggère. Remarquez qu'à son propos aussi, on pourrait trouver dans l'Antiquité déjà des mouvements qui sont à certains égards comparables. Certains éléments du mouvement gnostique au second siècle, et peut-être plus spécialement encore le mouvement manichéen au 3e et 4e siècle, pourrait se comparer par une certaine prétention de connaissance rationnelle à ce que j'appelle la troisième voie, la voie critique. En tout cas, ce type qui s'est élaboré particulièrement dans l'œuvre de Spinoza au XVIIe siècle, a envahi le monde protestant, où il s'est d'abord développé au XVIIIe siècle, il l'a envahi au XIXe siècle. Et il a conquis la plupart des grandes branches. Il y a eu des îlots de résistance importants, mais on peut dire qu'il a déferlé à partir de l'Allemagne sur le monde entier par vagues successives au cours du XIXe siècle. Dans le catholicisme, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il a envahi, de telle sorte que la voie que je viens de décrire à propos du catholicisme n'est plus valable pour une grande part du catholicisme romain d'aujourd'hui. Car la voie moderniste, qui est nettement différente, elle a remplacé pour la masse des théologiens, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu une première crise à la fin du 19e au début du 20e, qu'on a appelée la crise moderniste, mais le pouvoir pontifical a été tel qu'il a réussi à écraser cette vague-là, et il a semblé victorieux. Mais il y a eu une résurgence après la Deuxième Guerre mondiale, et cette fois victorieuse. Pour ce troisième type, la doctrine doit être construite à l'aide de la Bible et de certitudes acquises autrement. Alors ces certitudes viennent d'une science et d'une philosophie autonome, indépendante de la Bible elle-même. La science, alors la science de la nature, mais surtout la science critique, historico-littéraire, portant sur les textes bibliques, et puis les philosophies déterminent la construction de des théologies ou doctrines qu'on peut appeler critiques. Les philosophies, alors, sont très diverses, soit plutôt rationalistes, soit plutôt irrationalistes, soit les deux à la fois, car il en est qui sont les deux à la fois. Dans certains cas, l'influence philosophique est relativement cachée ou n'est pas tout à fait avouée, mais je crois qu'on peut la discerner quand même chez ceux qui essaient le plus de la cacher, je pense spécialement à Karl Barth, théologien le plus fameux, sans doute, de notre siècle. La grande originalité de ce type par rapport aux trois autres, c'est qu'elle opère un tri dans l'écriture. Les illuministes, les traditionnalistes, ou ceux dont nous parlerons ensuite, respectent l'intégrité de l'écriture. Bien sûr, dans le cas de l'illuminisme et du traditionalisme, il y a autre chose qui vient en quelque sorte étouffer la voix de l'écriture ou la déformer. Mais malgré tout, l'écriture est conservée comme un tout avec une reconnaissance officielle de son autorité. Dans le cas de la voix critique, cela n'est plus. Mais l'écriture est soumise ouvertement au jugement des hommes et on y fait un tri entre ce qu'on rejette et ce qu'on veut garder. Et cela implique une séparation. Spinoza a très bien vu ça, déjà en son temps. Une séparation entre écriture et parole de Dieu. L'écriture n'est pas comme telle la parole de Dieu. Il y a un rapport, mais on ne peut pas en dire plus. Alors essayons de reconnaître quand même quelques avantages à ce type. Il a celui, bien sûr, de plaire aux générations successives d'intellectuels, car il représente une combinaison des vues qui règne dans le monde des intellectuels, et puis des données bibliques ou chrétiennes classiques que l'on essaie d'adapter. Donc, par construction même, ce type plaît aux intellectuels d'un temps donné. Mais en dehors de cela, eh bien, je pense qu'on peut dire que cette voix reconnaît que nous devons exercer notre responsabilité lorsque nous lisons la Bible, que nous construisons notre doctrine. Il ne faut pas tout avaler, n'importe quoi. Que pour trouver le sens, il faut user d'une méthode rigoureuse qui prend en compte toutes les données historiques et philologiques qu'on peut avoir à propos du texte. Toutes les données qui viennent d'un monde qui a été créé par Dieu et qu'on ne peut pas mépriser. À coup sûr, dans les âges qui ont précédé l'avènement de cette approche critique, il y a eu des façons de prendre les textes bibliques qui négligeaient de cette étude patiente, méticuleuse, systématique. Et on peut reconnaître cet avantage dans l'ordre de la responsabilité et de la méthode à la voie critique. Mais cet avantage reconnu, nous devons alors dénoncer l'attaque corrosive, destructrice de l'autorité de l'écriture dans ce système. C'est pas la peine de démontrer, d'essayer de le prouver. C'est ouvertement que l'écriture est placée là sous le jugement des hommes. Ce n'est plus caché comme dans les deux précédents types. Et cela même dans le cas du barthisme, je crois qu'on peut le montrer. Même Karl Barth, qui a été présenté comme un réformateur restaurant l'autorité de la parole de Dieu, même Karl Barth a dit qu'il y a des contradictions, des erreurs dans l'écriture. Il a refusé de prendre ici ou là tel élément qui est nettement attesté dans l'écriture. Donc même Karl Barth, qui n'est sûrement pas le plus extrême, je le prends au contraire parce qu'il serait plus proche, même Karl Barth a mis l'écriture sous son jugement personnel. Et si Karl Barth lui est resté prêt, il y en a d'autres qui vont extrêmement loin et qui ne conservent que vraiment bien peu de choses dans leur référence à l'écriture. Alors ça, c'est une opposition aussi violente que possible aux prétentions de la Bible elle-même à son assurance d'être pour nous le message du Dieu souverain qui requiert notre adhésion. Celui qui adopte cette voie critique, me semble-t-il, quitte la place du disciple. Il prend la posture du maître qui juge la parole éventuellement d'un autre maître ou dans le cas de beaucoup de critiques, on a l'impression qu'il corrige les prophètes et les évangélistes comme un professeur corrige les copies de ses élèves et qu'il barre ici telle faute, qu'il se moque ici de telle erreur de raisonnement, etc. Et réellement, je ne vois pas pour ma part, et pourtant j'ai lu beaucoup de la plume des hommes qui adoptent la voie critique, je ne vois pas comment on peut dire, avec toute sa portée, l'affirmation clé du christianisme, Jésus est Seigneur, lorsqu'on traite le texte comme ça. Car vraiment, on ne prend plus les paroles de Jésus, du seul Jésus dont nous ayons quelques connaissances. On ne voit pas. Autrement, c'est un Jésus que l'on rêve et que l'on bâtit soi-même. On ne prend plus les paroles de ce Jésus comme les paroles d'un Seigneur. Quand on se permet de dire, et là encore, c'est un homme très proche, un homme dont j'ai lu un livre et je l'ai recommandé énormément, que j'ai rencontré parce que je l'estime encore pourtant très bien, un homme qui est proche des évangéliques, qui a pu dire, mais c'est évident que Jésus s'est trompé quant à la date de l'avènement du Fils de l'homme. Il a cru que ce serait tout près, tout bientôt, et puis ça ne s'est pas produit. Ça, c'est quelque chose qui s'admet dans les milieux qui acceptent la voie critique, mais quelque chose qui s'admet de presque tous. Mais vous vous rendez compte que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'est plus traité comme le Seigneur. Celui qui se permet de dire ça cesse ipso facto de considérer Jésus comme son Seigneur, dont la parole est la parole qui a tous les droits sur lui. On peut encore parler d'illuminisme aussi, mais cette fois c'est un illuminisme académique. Ce n'est pas la voix intérieure de quelqu'un inspiré, mais c'est l'illumination de quelques philosophes Il faut voir comment certains de ces critiques contemporains traitent Heidegger. Au point qu'il y a eu un colloque, je crois, où Heidegger a été obligé de dire aux théologiens « Écoutez, quand même, vous feriez bien de vous référer un peu plus au Nouveau Testament et un peu moins à moi. Ben, » parce que c'est manifeste. J'ai lu des livres qui disent à peu près clairement la conception du temps, par exemple, dans la Bible. Qu'elle soit ci ou qu'elle soit ça, finalement, ça ne nous importe pas. C'était l'opinion de ces auteurs-là. Mais il suffit que Heidegger change, lui, sa conception du temps, si jamais il veut la changer, pour que ce soit la révolution, alors, dans la doctrine. Non, ça, c'est, me semble-t-il, manifestement, un autre type d'illuminisme, mais un illuminisme académique. Oui. Et, je veux dire, il est évident aussi, me semble-t-il, que la raison critique et philosophique ne se dégage pas du problème de l'arbitraire, qui est aussi celui de l'illuminisme. Les modes changent avec une facilité dérisoire dans l'édification des doctrines de cette troisième voie. Chaque fois, un homme se lève et prétend qu'il a trouvé enfin l'approche scientifique rigoureuse. Vous avez eu cette prétention avec la phénoménologie, par exemple, au XXe siècle. Voilà enfin la philosophie. On allait débarrasser toute l'histoire de la philosophie des vieux problèmes qui n'étaient que de faux problèmes. Puis les néo-positivistes ont dit la même chose, etc. Puis chaque génération amène un autre homme qui a enfin trouvé la formule, la philosophie à laquelle il ne peut résister. Puis il est balayé par la génération qui suit. Et alors les théologiens qui s'essoufflent à suivre avec quelques temps de retard. C'est à rire ou à pleurer, bien sûr. Mais si vous prenez l'histoire de la doctrine des milieux qui ont adopté cette voie critique depuis deux siècles, vous verrez que ça change sans arrêt et au gré des modes philosophiques. Que vous suivez l'histoire de la philosophie dans ses retentissements théologiques. Je me rappelle un cartoon dans une revue aussi. On accueille un théologien sur le sol américain. Là. Je vous présente le docteur So-and-so, dont les vues ont eu une énorme influence entre le 15 janvier et le 15 février 1978. C'est bien la preuve qu'il n'y a aucune stabilité, aucune rigueur dans cette façon de construire la doctrine. Ce sont des hommes emportés à tout vent de doctrine, selon l'expression que Paul emploie pour repousser cette vision dans le chapitre 4 aux Éphésiens. Et derrière cette réalité, il y a le fait qu'il n'y a pas de raison autonome, que la raison dépend toujours de ses présupposés, comme je l'ai déjà souligné cet après-midi, de l'orientation du cœur, puisque la raison, c'est le cœur qui raisonne. Et vous ne pouvez pas éliminer ces choix, ces options fondamentales. La raison de l'un se dirigera tout autrement que la raison de l'autre à cause de ces aiguillages premiers. Et il faut que l'aiguillage soit le bon pour que la révélation générale de Dieu, les faits qui sont étudiés, soient perçus dans leur véritable lumière, pour que la méthode philologique et historique, qui en elle-même est bonne, porte des fruits sérieux. Il faut qu'elle soit conduite dans la dépendance de l'optique biblique elle-même. Autrement, elle conduira à des résultats d'incrédulité, parce qu'au cœur, elle sera conduite par l'incrédulité. Alors il reste comme quatrième type la voie évangélique. J'emploie le mot au sens où les GBU sont un mouvement évangélique dans le monde. L'Union internationale à laquelle appartient le mouvement des GBU français s'appelle en anglais la Fellowship des étudiants évangéliques. Alors j'ai essayé à Vivier de définir un peu plus précisément le sens du mot évangélique, je n'y reviens pas. Je ne vais pas développer ce qui concerne ce quatrième type, puisque j'aurai l'occasion, en parlant demain, de donner plus de précisions à son égard aussi. C'est un type qui a été esquissé au cours du Moyen-Âge par quelques docteurs courageux, comme Wycliffe en Grande-Bretagne, comme Jean Hus en Bohême, mais il ne s'est constitué dans toute sa clarté, avec sa précision, qu'au moment de la réforme. Et je crois qu'on peut discerner la raison du privilège de cette époque. Cette époque de la réforme, c'est chez ces hommes la rencontre d'une expérience intense de la grâce qui a bouleversé leur vie. Luther, qui est le premier réformateur, a vécu avec extrême intensité le drame de la conscience accusée devant Dieu. Ça a été d'abord chez lui un drame intime. La rencontre entre une expérience de la grâce très vive, chez Calvin aussi d'ailleurs, chez les autres, il y a eu une expérience très forte, et puis la méthode rigoureuse des humanistes. À une époque où l'humanisme, qui ne faisait que commencer, n'avait pas encore développé ses virtualités d'athéisme et d'idolâtrie de l'homme. Les humanistes ont amené des outils nouveaux d'études beaucoup plus rigoureuses des textes. Ce qui leur manquait, cette expérience de la grâce et donc de la majesté de Dieu qui lui rend ses droits. Mais chez les réformateurs, ce qui a permis la constitution d'une autre approche, c'est qu'ils ont eu à la fois les outils de la technique philologique d'un Érasme et d'autres, et Lefèvre d'Étaples, etc., et puis alors une expérience saisissante à la manière de celle de Saint-Augustin, dont ils étaient d'ailleurs de grands lecteurs, ils étaient des augustiniens. Et je crois que nous pouvons apprécier comme une démarche de la providence divine cette rencontre précisément au XVIe siècle. Alors quel est le principe de cette voie évangélique quant à la construction doctrinale? Bien, la doctrine doit être construite à partir de la Bible seule. Voilà le contraste. Bible seule et non pas Bible et autre chose. Le slogan, pourrait-on dire, c'était sola scriptura, l'écriture seule, par l'écriture seule. Alors, je dis bien, la doctrine doit être construite. C'est la norme. En fait, les réformateurs et tous ceux qui ont suivi cette voie évangélique reconnaissent que parce que leur intelligence est imparfaitement sanctifiée, ils succombent ici ou là à l'influence de telles traditions humaines et pourtant incorrectes, ou de telles philosophies à la mode, ou peut-être pas à la mode. Oui, c'est la norme, c'est l'idéal que l'on poursuit de tirer de la Bible seule la doctrine. En fait, on peut glisser à droite et à gauche par moment, mais le fait que l'on tienne quand même à chercher dans la Bible seule la doctrine prémunit contre les plus grandes divagations. L'écriture, pour être vraiment souveraine dans la construction de la doctrine, doit s'interpréter elle-même. Et ça a été aussi une expression qu'ils ont employée. L'écriture interprète d'elle-même. Car si pour comprendre l'écriture, l'interpréter bien, vous avez besoin d'une autre instance, alors finalement, fatalement, l'écriture sera soumise à une autre autorité qu'elle, et vous pourrez infléchir son sens de quelque façon. Donc il faut que l'écriture elle-même puisse nous dire comment elle se lit bien. Alors je crois que le problème de montrer comment la chose peut se pratiquer est relativement délicat. J'ai essayé de faire quelques travaux dans ce sens, et si quelqu'un veut vraiment chercher plus loin, je peux signaler d'une part un petit fascicule paru dans les cahiers de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne sur l'autorité de la Bible et son interprétation, où se trouvent des notes assez schématiques, mais il y en a quand même une dizaine de pages, sur ce que cela peut alors concrètement signifier, que l'Écriture s'interprète elle-même et nous guide ainsi dans l'interprétation. Et vous pouvez aussi vous rapporter aux remarques faites en conclusion d'un très long article sur la théorie de l'interprétation de Paul Ricoeur, du philosophe moderne Paul Ricoeur, qui est un protestant moderniste libéral. Alors à la fin, ayant présenté puis critiqué ses vues, j'esquisse aussi ce que peut signifier l'écriture s'interprète elle-même. Mais un élément pratique, il n'y a pas besoin de toutes ces explications que je signale dès maintenant et que les réformateurs ont mis en valeur, c'est que pour interpréter l'écriture, il va falloir s'aider des autres passages. Il faudra toujours essayer de comparer les textes entre eux, essayer d'éclairer ceux qui sont les moins clairs par ceux qui sont les plus clairs, essayer de discerner les lignes de force de l'enseignement pour revenir à ceux qui d'abord, aux passages qui d'abord n'ont pas paru d'un sens évident, etc. Interpréter l'écriture comme un tout en la sillonnant en tous sens, en quelque sorte, et en utilisant les correspondances qui s'y trouvent. Parce que ce qui est d'une aide inappréciable quand on lit l'écriture, c'est que l'écriture se cite elle-même. Comme l'écriture a été rédigée sur au moins 13 siècles, alors vous avez des auteurs postérieurs qui citent des auteurs antérieurs, etc. Et du coup, vous avez des aides pour la compréhension qui sont très très importantes. L'écriture interprète d'elle-même. Ça, c'est le noyau. Alors, avec ça, il y a reconnaissance d'éléments, disons, des éléments davantage avantageux dans les autres positions. En tout cas, le type évangélique devrait s'assimiler ces avantages. L'utilisation d'une méthode rigoureuse qui tienne compte de toutes les données possibles sur le contexte historique, par exemple. Mais bien sûr, les évangéliques en sont d'accord. Ils n'ont peut-être pas fait leur travail avec assez de zèle à cet égard dans le passé, mais je crois qu'ils le font de mieux en mieux. Et oui, ça on peut. Sur la nécessité de recueillir toutes ces données, on peut être d'accord avec les critiques, seulement sous l'autorité de la Bible elle-même. De même, le recours à une tradition positive, est dans l'Église. Si l'Église est considérée comme soumise au jugement d'écriture, et la tradition considérée comme soumise au jugement d'écriture, alors il faut reconnaître le grand prix qu'on doit attacher au travail de tous les prédécesseurs, de tous les pères en la foi. Et là, alors, je crois que les évangéliques, souvent, n'ont pas tenu compte comme il le fallait. Et ils sont tombés dans les pièges de l'individualisme. La tradition, c'est pas un mot qu'il faut prendre comme négatif. Je sais que j'ai parfois choqué certains des étudiants qui étudient ici, parce que j'emploie couramment le mot tradition de façon positive. C'est que certains ont été hérissés parfois. Mais je maintiens, la tradition, c'est une très belle chose, pourvu qu'elle n'exerce pas un magistère, mais qu'elle soit un ministère. Dieu a institué dans l'Église des ministères, pas un magistère. Le magistère se le réserve à lui qui nous parle dans la Bible. Mais la tradition est précieuse, c'est un ministère dont il est fou de penser se passer, et il faut recourir aux écrits des hommes venus avant nous. Et bien sûr, il faut toujours se rappeler que c'est grâce à l'illumination du Saint-Esprit qui nous guérit de nos aveuglements qu'il est possible de comprendre que si nous nous en remettons à notre seule méthode historico-philologique, si nous nous en remettons à nos seules traditions aussi, nous errerons inéluctablement, car c'est l'Esprit seul qui peut vraiment nous faire comprendre, non pas en nous fournissant des révélations de plus, mais en disposant notre cœur comme il faut. Alors, dans la discussion avec d'autres, ça nous permettra de faire apparaître dans l'écriture elle-même, c'est dans l'écriture, les éléments qui montrent que c'est bien ça. Et nous ne pourrons pas prétendre que parce que nous sommes sûrs que le Saint-Esprit nous habite, alors c'est ça qui est la bonne interprétation. Il faudra que ce soit dans le texte. Mais il n'empêche, nous devrons demander par une prière renouvelée que le Seigneur nous guide dans l'interprétation, sans quoi nous errerons, je crois, fatalement. Il me semble que cette voie évangélique, telle que je l'ai définie, telle que nous essayons de la pratiquer sans toujours y réussir, est la seule manière d'échapper à l'arbitraire des hommes et laisser Dieu vraiment régner sans partage. C'est vraiment lui là qui décide, par sa parole, entrer dans notre histoire. Et je fais observer ce que j'ai déjà annoncé cet après-midi, que au sein de cette tradition, oui, parce que j'accepte le terme, cette tradition évangélique, il y a une grande cohérence, une grande stabilité. des réformateurs jusqu'à nous, vous pouvez voir que les thèses essentielles sont préservées et qu'il y a un très large accord. Ça contraste avec cette variabilité de girouette de la théologie de type critique. En un sens, je plains beaucoup les théologiens critiques. Ils sont fameux pour un temps, mais ils peuvent être sûrs qu'on rira d'eux la génération d'après, ou peu de temps après. Alors que les grands théologiens évangéliques, du 16e, du 17e, du 18e, ils sont toujours révérés, aimés. Dieu se sert d'eux pour l'instruction du peuple dans les églises évangéliques. Ils peuvent être assurés que leur labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Parce qu'il y a une stabilité, il y a une cohérence. Et je crois que si l'on observe le traitement que Jésus et les apôtres ont donné au texte de l'Ancien Testament, on verra que c'est exactement celui que j'ai essayé de définir. C'est par l'écriture seule qu'ils l'ont déterminé. Une écriture considérée comme ayant totale autorité. Non, mais sur cela, nous reviendrons en principe demain.